Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je ne tape pas dans le micro, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je parle assez près. D'accord. Écoutez, merci au public très nombreux ce soir. Nous avions prévu un petit peu plus de monde, comme vous pouvez vous en apercevoir. Mais voilà, il fait chaud, on a du mal à sortir. Alors qu'ici, c'est climatisé quand même. Hein. On va le faire savoir quand même. Si vous voulez vous rafraîchir, venez assister aux séances du conseil municipal. Alors, je vais procéder à l'appel pour vérifier si nous avons bien le quorum. Michel Biou est présent, Clotilde Lagoutte.
Présente.
Alain Meller est absent, est excusé, a donné pouvoir à André Palancade, Stéphanie Charret.
Présente.
Didier Moreau.
Présent.
Marina Descotes-Galli est absente et a donné pouvoir à Clotilde Lagoutte. André Palancade.
Présent.
Anne-Marie Aulas.
Présent.
Claude Godard.
Présent.
Sylvie Galochet.
Présente.
Je profite pour vous proposer de la nommer secrétaire de séance. Des objections ? Non, tout le monde est d'accord. Félicitations. Roger Cyprès.
Présent.
Samira Boujidi.
Présent.
Jacob Nalouna, a priori, n'est pas là. Simone Jérôme.
Présent.
Charles Murat est absent, excusé, a donné pouvoir à Michel Veu. Virginie Salitra est absente, excusé, a donné pouvoir à Simone Jérôme. Karine Jarry.
Présent.
Michel Veu.
Présent.
Daniel Boudet.
Présent.
Pascal Lué.
Présent.
Sandrine Nagel.
Présent.
Mehdi Ben Salem.
Présent.
Jean-Pierre Gabarou.
Présent.
Monique de Villene.
Présent.
Catherine Heuse de Viès. Serge Saussier.
Présent.
Pascal Docker.
Présent.
Rachida Mouali. Et Stéphanie Chute. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Avant de vous proposer de mettre aux voix l'approbation du procès-verbal de l'énière séance, vous avez sur table un certain nombre de documents que je m'étais engagé à vous remettre, donc un courrier de réponse à M. Gabarou relative à la révision du plan local d'urbanisme et la ZAC de la Grande Plaine, l'extrait du rapport annuel d'activité 2016 de l'École de musique de l'harmonie de Nangy, et j'ajouterai donc quelques éléments de réponse à l'intervention de M. Gabarou lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 2017, donc concernant l'adoption du budget principal. Donc ces éléments de réponse m'ont été préparés par le service financier, je les commenterai assez peu. La DGF, dotation globale de fonctionnement, constitue la principale contribution de l'État aux recettes des collectivités locales. Elle a été créée en 1979, succédant au versement représentatif de la taxe sur les salaires fondée en 1967. Elle a connu depuis de très nombreuses réformes, incluant régulièrement des compensations accordées aux collectivités en contrepartie d'allègements fiscaux décidés en loi de finances. Les dotations de péréquation sont venues également s'y additionner, comme la DSR et la DSU. Elle est aujourd'hui composée de la dotation forfaitaire représentant la part principale, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la DSU, la dotation de solidarité rurale, la DSR, composée de trois parties, la DSR bourg-centre, la DSR de péréquation et la DSR cible. Ah, je salue l'arrivée de la presse. Enfin, la dotation nationale de péréquation. Mais on utilise fréquemment le terme DGF pour évoquer la seule dotation forfaitaire. On veillera à l'avenir à être plus précis, à parler effectivement de dotation forfaitaire lorsqu'il s'agit de dotation forfaitaire. Mais ce sont des agglomérations qui sont venues s'ajouter plus récemment, et ce qui explique que très fréquemment, même dans la presse, on utilise DGF pour parler de la dotation forfaitaire. C'est bien sûr sur la dotation forfaitaire que se sont exercés les prélèvements par l'État depuis 2014. Pour rappel, la dotation forfaitaire a subi deux types de prélèvements. Là, il y a écrit, d'ailleurs, excusez-moi, prélèvement par l'État depuis 2014, mais ça a commencé déjà un peu en 2013. Hein. Pour rappel, la dotation forfaitaire a subi deux types de prélèvements, la contribution au redressement des finances publiques et un écrêtement qui sert au financement des emplois internes de la DGF. Pour la ville de Nangy, la baisse cumulée de 2014 à 2017 de la dotation forfaitaire s'élève bien à 1 893 651 euros. Je vous le confirme, en 2013, son montant était de 1 925 959 euros. En 2016, de 1 286 612 euros, soit moins 639 347. Là, ce n'est pas l'effet cumulé, hein, c'est juste un effet comptable. On fait juste une soustraction. Mais si vous, effectivement, vous faites le cumul, vous arrivez au chiffre que je vous ai indiqué plus haut. Il est à noter que pour 2017, la contribution de la commune au redressement des finances publiques a été de moitié moins que prévu, comme annoncé par le gouvernement dans un premier temps, par un arbitrage présidentiel, notamment présenté devant le congrès des maires. S'il avait été prélevé comme initialement prévu, nous aurions constaté une perte cumulée de plus de 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, nous les avons quand même, si nous ajoutons donc à la contribution au redressement des finances publiques, donc l'effet cumulé de l'écrêtement, là aussi sur 4 ans. Et c'est bien 800 000 euros de dotation forfaitaire qui feront défaut chaque année aux recettes de notre commune si cette disposition est maintenue, voire aggravée. Nous n'avons pas ajouté dans la comparaison l'année 2017, qui est un peu déstructurée en termes de comparaison dans quelques passages à la fiscalité unique. Donc on reste sur des comparaisons très simples, mais c'est bien 800 000 euros de moins de dotation forfaitaire par rapport à 2013. En ce qui concerne les autres dotations, la DSU, notre ville y est éligible depuis 2015. Elle l'est car elle remplit les critères économiques, sociaux et démographiques exigés par la loi de finances. Son évolution démographique a également été déterminante. Mais même en l'absence du dispositif de la contribution du redressement des finances publiques, nous aurions été éligibles à cette dotation. Le montant de cette dotation est de 268 713 euros et depuis cette année de 288 961 euros. Même s'il n'y avait pas, là où je tiens vraiment à insister, si nous sommes éligibles, c'est parce que nous correspondons aux critères et ce n'est pas parce que nous avons subi une baisse de la dotation forfaitaire. Nous aurions pu tout aussi bien, sans baisse de la dotation forfaitaire, obtenir, être éligible à la DSU, et nous aurions bien eu, au total, ces 800 000 euros qui vont manquer chaque année donc à notre budget. Même chose pour la DSR, dotation de solidarité rurale. Elle a augmenté depuis 2012, elle est passée de 240 589 euros à 421 470 euros en 2007. Son montant est calculé en fonction de plusieurs paramètres qui sont multipliés par une valeur du point en constante hausse chaque année. Ces paramètres sont la population de 3 à 16 ans, et vous le savez, celle-ci n'a cessé de croître depuis 2012, la longueur de la voirie communale et le potentiel financier par habitant de la commune qui, lui, n'a cessé de baisser, d'une part par effet mécanique de la hausse de la population et d'autre part à cause de la stagnation des bases fiscales de la commune. Donc là encore, si la dotation de solidarité rurale augmente, c'est parce que notamment la population augmente et particulièrement la population de 3 à 16 ans. Donc ce n'est pas non plus là encore une compensation de la baisse de la dotation forfaitaire. Pour ce qui concerne les augmentations des recettes, le service financier n'ayant pas reçu vos tableaux, M. Gabarou n'a pas réussi à retrouver exactement vos chiffres. Donc si jamais vous retrouvez votre document écrit, transmettez-le nous et on l'étudiera avec beaucoup d'intérêt. Les principaux constats concernant les recettes des chapitres 73, impôts et taxes, et 74, dotation et participation, sont les suivants. Donc l'éligibilité de la commune à la DSU depuis 2015, je l'ai dit, baisse de la dotation forfaitaire depuis 2014, je dirais même 2013, légère hausse de la DSR, recette exceptionnelle en 2015 d'un peu plus de 600 000 euros de CFE suite à un oubli des services fiscaux sur les années 2012 à 2015. Alors effectivement, en 2015, ça nous fait une belle rentrée fiscale, mais c'est un cumul et donc nous le retrouvons intégré pour un quart seulement les années suivantes. Hausse du fonds de solidarité régionale Île-de-France depuis 2012. Mais là, je ne vous l'ai pas indiqué, mais il faut toujours regarder les recettes et les dépenses. Il est à noter que la moitié de sa hausse annuelle finance la hausse annuelle de notre contribution au fonds de péréquation, le FPIC. Hein, donc, on nous aide d'un côté et on nous en retire la moitié de l'autre. L'effet, là aussi, est nettement diminué. Ensuite, bien entendu, il faut entrer dans nos recettes les subventions de la CAF et de l'État suite à la mise en place des nouvelles activités périscolaires. Mais là aussi, il y a quelques dépenses en face. Pour avoir une analyse complète du budget, il ne faut pas seulement regarder l'évolution des recettes, mais bien évidemment celle des dépenses. En ce qui concerne les charges de personnel, je vous invite par exemple à visiter le site internet de la DGCL et à examiner les comptes des communes. Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne notre commune, le compte administratif 2015, le dernier compte qui est aujourd'hui en ligne, bientôt il y aura celui de 2016, présente en charge de personnel un montant de 6 152 000 euros, ce qui correspond à 7 581 185 euros de charges, chapitre 12, auxquelles il faut diminuer, donc il faut soustraire les atténuations de charges du personnel au chapitre 14, c'est-à-dire en l'occurrence 1 429 135. Et donc la différence fait bien 6 152 000. Sur ce même site, les charges de personnel sont de 5 882 000 en 2013, 6 256 000 en 2014 et 6 152 000 en 2015. Et comme énoncé lors du dernier débat d'orientation budgétaire, de 5 957 763 euros en 2016. Le compte administratif a été adopté depuis. Donc entre 2013 et 2016, nous constatons une hausse limitée à 75 763 euros, soit plus 1,29%. Donc très loin de la hausse cumulée de 2 238 432 euros de 2013 à 2016, énoncée par M. Gabarou. Je vous invite à retrouver un peu tous ces chiffres-là. Nous aurons l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Je vais mettre Monsieur Gabarou.
Oui, pardon, bonsoir, Monsieur Liou. Donc, je ne savais pas que vous alliez répondre ce soir avec ces chiffres, sinon je serais venu avec mes tableaux et j'aurais pu vous répondre. Donc, je vous répondrai la prochaine fois, si vous le permettez.
Oui, mais s'il vous plaît, parce qu'on vous l'a demandé, transmettez-nous
vos écrits. Mais je ne peux pas vous les transmettre, j'ai un problème d'informatique, c'est sur mon ordinateur et je ne peux pas sortir ce que j'ai sur l'ordinateur. Actuellement, je ne peux lire lorsque vous me convoquez ou tout ça, je ne l'ai que sur mon portable, sur mon téléphone portable.
Donc, demandez à notre informaticien.
Dès que mon ordinateur sera réparé,
il va sûrement trouver une réponse.
Dès qu'il sera réparé, je vous communiquerai les papiers.
D'accord, très bien. Voilà, donc avec ces éléments donc, qui seront bien entendu joints au compte-rendu, je mets le compte-rendu aux voix. Qui s'y oppose ? 7 comme d'habitude ? Non ? Oui ? Non ? Pas ? Oui ? Qui s'abstient ? Donc qui l'adopte ? Donc ça doit faire 21. Y a-t-il des questions, des commentaires concernant les décisions du maire ? Oui, non ? Y a-t-il des questions, des commentaires concernant les conventions qui ont été amenées donc à signer ? Non plus. Avant d'adopter l'examen des projets de délibération, je vous demande l'autorisation d'en ajouter une qui concerne une subvention exceptionnelle à l'association amicale bouddhiste de Nangy, qui a été oubliée au moment donc du vote des subventions. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Il n'y en a pas. Nous pourrons l'examiner donc en fin d'ordre du jour. Donc la première délibération, la 2017 mai 83. Concerne le renouvellement de la délégation du service public du marché forain. La commune de Nangy a fait le choix par délibération numéro 2016 décembre 74 du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 d'une exploitation de son marché forain sous la forme d'une délégation de service public par affermage pour une durée de 6 ans. Donc nous avions décidé de renouveler le principe de la délégation de service public. La procédure engagée a suivi, conformément aux articles L1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, les différentes étapes détaillées comme suit. Délibération numéro 2016 décembre 1974, donc autorisation de la procédure de consultation par délibération du Conseil municipal. Parution de l'avis d'appel public à la concurrence au BAO, au BOAMP et aux échos, le journal des échos, le 14 décembre 2016. Date limite de réception des candidatures le 19 janvier 2017 à 17h. 4 candidatures reçues dans les délais. Ouverture des candidatures en commission de délégation de service public le 20 janvier 2017. Donc les candidats étaient Nouveau Marché de France, Mandon Somarep, Lombard et Guérin et Géraud et Associés. Admission des candidats à remettre une offre en commission de délégation de service public le 30 janvier 2017. Autorisation après analyse des candidatures des 4 candidats à remettre une offre. Le 8 février 2017, visite sur site avec les 4 candidats. Date limite de réception des offres le 30 mars 2017 à 17h. 3 offres ont été reçues dans les délais. Ouverture des offres en commission de délégation de service public le 30 mars 2017 à 18h. Mandon Somarep, Lombard et Guérin et Géraud Associés. Admission des candidats à négocier en commission de délégation de service public le 10 avril 2017. Admission à négocier des 3 candidats ayant déposé une offre. Les négociations se sont déroulées les 21 et 24 avril 2017 par l'audition des candidats, négociations et demandes de précision sur les offres transmises amenant à des compléments d'offres. Hein. Toutes les demandes de précision avaient fait l'objet d'une démarche écrite et ont été donc formalisées également par des réponses écrites. En commission de délégation de service public du 5 mai 2017, l'analyse finale des offres complétées avec proposition d'un classement intégrant les compléments d'offres a eu lieu. Et donc, cette analyse donc, a présenté la proposition Géraud et Associés comme étant la mieux lisante, celle de Mandon Somarep en seconde position et celle de Lombard et Guérin, donc l'actuel délégataire, en troisième position. Il est rappelé que préalablement à la présente séance du conseil municipal, chaque élu a reçu un exemplaire du rapport du maire, donc prévu à l'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Ce rapport présente de manière synthétique les éléments suivants: le rappel de la situation actuelle, la description des étapes de la procédure de consultation engagée telle que je viens de vous les présenter, les négociations et les motifs du choix du candidat retenu. Voilà, donc je vais pas vous faire la lecture de tous ces documents. Je rappelle que la commission de délégation de service public a rendu un avis unanime, mais donc au vu des documents que vous avez reçus, si vous avez des commentaires, des questions à poser, je suis à votre disposition. S'il n'y en a pas, donc je vais mettre aux voix la délibération 83. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. En foi de quoi, donc la société Géraud et Associés agira en qualité de délégataire à partir du samedi 17 juin. Donc s'en suivra un temps de mise en œuvre avant notamment la modification du périmètre. Voilà, bon, je pense qu'il y a un temps nécessaire à la prise de contact entre le nouveau délégataire et les commerçants. De façon, bon, il y aura, comme c'est prévu, une légère augmentation du droit de place et la mise en place d'une taxe déchets de façon à ce que à permettre une collecte un peu plus satisfaisante de la collecte de fin de marché et si possible, puisque cette taxe pourra être revue en fonction des quantités collectées, si tout le monde est raisonnable, on peut considérer que petit à petit la taxe pourrait diminuer. C'est un appel là aussi à pouvoir maîtriser chacun ses propres déchets, mais ça ne sera pas mis en place donc le 17 juin, mais dans les semaines qui suivront. Voilà, délibération suivante, il s'agit donc de décision modificative numéro 1, budget de la commune en section de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2017. Je passe la parole à Sylvie Galocher. Je passe même le micro.
Merci, monsieur le maire. Alors, par courrier du 18 avril 2017, la Direction générale des finances publiques du GIFIP nous informe que, suite à la modification d'un permis de construire, la taxation initiale doit être réduite de 1 200 euros, somme que la collectivité de Nangy donc, aura perçue à tort. Pour reverser cette somme, un mandat doit être émis au compte 10226 taxes d'aménagement, qui est un compte d'investissement sur un chapitre 10, lequel est rarement abondé par les collectivités. Le passage de cette écriture nécessite donc l'inscription au budget en cours des crédits nécessaires, d'où la nécessité de procéder à cette décision modificative. Il vous est donc proposé de bien vouloir délibérer sur cette affaire. Alors, pour information, les communes ne taxent pas les autorisations d'urbanisme qui rendent exigibles des taxes d'aménagement, c'est les anciennes taxes locales d'équipement. C'est directement le service du pôle fiscalité urbanisme, donc service de l'État qui taxe ces autorisations d'urbanisme, qui font percevoir les sommes directement du contributeur au service du Trésor public et ensuite nous reverse sur la collectivité par le biais de la trésorerie de Nangy. Cette somme-là donc étant à rembourser, il faut évidemment inscrire les crédits pour permettre à la DGFIP de rembourser le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme qui a été réduite.
Voilà, en résumé, si j'ai bien compris, ce n'est pas nous qui avons commis l'erreur, mais c'est nous qui la réparons. Voilà.
C'est même pas une erreur, en fait, la personne a changé son permis de construire.
Oui, bon, donc c'est suite à une modification de permis. Pas de permis de conduire. Là. Des questions ? Je mets aux voix, qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours regarder la décision modificative numéro 1 au budget annexe de l'assainissement de la commune en section d'investissement pour l'année 2017. Anne Galocher, toujours.
Merci. Alors, par courriel du 3 mai 2017, le comptable public nous informe que la somme de 11 812 euros versée par l'agence de l'eau Seine-Normandie en 2015 a été titrée à tort, par contre, là, au compte des subventions d'équipement. Cette somme est en fait assimilée à un prêt. L'agence de l'eau fait des prêts à taux zéro et donc fait l'objet d'un remboursement. Il convient donc non pas cette somme n'aurait pas dû être titrée au compte des subventions, mais tout simplement au compte des emprunts. Donc il faut l'enlever du chapitre 131 pour réémettre à la bonne imputation comptable 1680. Le passage de ces écritures nécessite l'inscription au budget en cours des crédits nécessaires, d'où la nécessité de procéder à cette décision modificative.
Merci. Des questions, des commentaires ? Je me vois. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vais repasser la parole à Mme Galocher pour la délibération 86. Demande de subvention au fonds de concours de la communauté de communes de la Brinangicienne pour 2017 concernant l'espace de jeu dynamique et sportif pour les 5-12 ans en plein air au parc du château.
Merci. Dans le cadre du soutien des communes membres, la communauté de communes de la Brinangicienne propose un fonds de concours annuel. Ce fonds de concours 2017 aide à financer des projets d'intérêt communautaire, par exemple la réalisation d'équipements sportifs, culturels, liés à la petite enfance ou à l'enfance. La ville de Nangy souhaite répondre à cet appel à projet au regard de la mise en place d'un espace de jeu dynamique pour les 5-12 ans, installé en plein air au parc du château. Il complétera ainsi l'espace de fitness et de musculation qui avait été installé l'année précédente. La réalisation de ce projet participatif est le fruit d'un travail conjoint depuis plusieurs mois entre les membres du Conseil local de la jeunesse et du Conseil des sages, soutenu par les services de la ville, soit les services techniques ou la vie locale et jeunesse. L'objectif visé par ce projet est de créer un espace intergénérationnel où toutes les générations peuvent se rencontrer, les jeux pour enfants étant également à proximité de cet espace, de partager et de pratiquer une activité physique et sportive en toute convivialité dans un espace verdoyant et ouvert toute l'année. Le coût prévisionnel global pour ce projet se décompose de la façon suivante. L'acquisition de l'espace jeu, 20 659 euros hors taxes, soit 24 790 euros 80 TTC. Le terrassement, le coffrage, 3 500 euros hors taxes, soit 4 200 euros TTC. La fourniture simple de copeaux de bois pour sol souple, 6 578 euros hors taxes, soit 7 893 euros 60 TTC. Ce qui fait un total de 30 737 euros hors taxes, soit 36 884 euros 40 TTC. La demande de subvention est établie à hauteur de 2 000 euros pour cet appel à projet et sera soumise au comité de sélection de la CCBN au regard des conditions de recevabilité, des critères d'attribution et des axes prioritaires, bien entendu, des demandes. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son adjoint à signer et déposer la demande d'appel à projet fonds de concours auprès de la communauté de communes de la Brie-Nangessien.
Des questions, des commentaires? Bon, très honnêtement, on s'est interrogé hein, avant de solliciter la communauté de communes, mais comme aujourd'hui, la politique de la communauté de communes en termes de fonds de concours n'est pas encore très, très clairement précisée, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée de ne pas le solliciter. Hein, voilà. Même si c'est pour une somme relativement symbolique par rapport au coût de l'opération. Et puis quand la communauté de communes aura défini plus clairement sa politique de fonds de concours, on verra comment s'y inscrire peut-être un petit peu plus sérieusement. Je peux mettre aux voix. Qui s'abstient, qui s'y oppose, est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, la 87, il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet 2017, des actions locales en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire pour l'opération Un été à Nangy. C'est Stéphanie Charret qui nous présente la notice explicative.
Donc chaque année, il est constaté que de nombreuses familles n'ont pas la possibilité ou l'opportunité de partir en vacances. C'est pour leur offrir des animations et des moments de détente conviviaux et festifs que la municipalité a souhaité regrouper au sein de la brochure Un été à Nangy tout ce qui pouvait se passer à Nangy durant l'été. Donc cet événement estival s'adresse à toutes les générations, des juniors aux seniors, avec parfois des temps d'animation spécifiques. Mais c'est aussi des moments plus collectifs et de rencontres intergénérationnelles. Donc Un été à Nangy a pour but de permettre aux Nangyciens l'accès libre à un espace dédié à la détente, aux loisirs et à l'échange informel, de créer un environnement de partage ouvert à tous, permettant la socialisation, nous orientant vers l'ouverture intergénérationnelle et pluriculturelle, et proposer aux usagers une programmation ludique et attractive par le biais d'initiatives socio-éducatives, culturelles et sportives, et permettre aux associations nangyciennes de présenter leur action dans un cadre festif. Fort de son succès de l'année dernière, cette initiative est reconduite cet été avec un nouveau programme. Pour permettre son bon déroulement, il est proposé de solliciter une aide auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de Seine-et-Marne dans le cadre de l'appel à projet 2017 des actions locales en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Cette aide valorisera notamment la participation du public jeune à Un été à Nangy. Le montant de ce projet s'élève à 42 741 euros, correspondant principalement aux charges liées au personnel, d'achat de matériel et de prestations de services. Le taux de subvention espéré est de 22,85%, soit 10 000 euros. et donc demander au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer cette demande de subvention.
Merci beaucoup. Des questions, des commentaires? Non, en général, pour une demande de subvention, on est facilement d'accord. Donc, je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, 88. Son objet est la mise en place du permis de louer. Et je passe la parole à M. Hué. Il y a toujours merci une bien bonne notice explicative.
Ah hein. Oh, oui. Ils le font exprès, je pense. Ça dit que c'est incroyable. La loi dite Allure du 24 mars 2014 permet aux établissements de coopération intercommunale et aux communes volontaires de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers pour lesquels la mise en location d'un bien doit faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation préalable. Le décret du 19 décembre 2016 modifiant le code de la construction et de l'habitation est publié le 21 décembre 2016, définit les modalités réglementaires d'application de ces deux régimes, à savoir donc, pour la déclaration. La déclaration de mise en location oblige les propriétaires à déclarer à la collectivité la mise en location d'un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d'un nouveau contrat de location et donnera lieu à la délivrance d'un récépissé. Le régime d'autorisation préalable de mise en location est plus contraignant puisqu'il conditionne la conclusion d'un contrat de location à l'obtention d'une autorisation préalable. Délivrée dans le délai de un mois, cette autorisation est valable 2 ans suivant sa délivrance. Si le logement n'a pas été mis en location, le transfert de l'autorisation d'un nouvel acquéreur s'effectue après déclaration auprès de la commune et la demande d'autorisation devrait être renouvelée à chaque nouvelle mise en location. Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation. La décision de refus d'une demande d'autorisation sera transmise à la caisse d'allocation familiale, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux. Si une mise en location est faite, malgré le rejet, la commune peut ordonner le paiement d'une amende au plus égal à 5 000 €. Le produit des amendes est versé à l'Agence nationale de l'habitat. Afin de permettre à la commune de réaliser des contrôles pour vérifier la bonne qualité des logements avant leur mise en location, le système d'autorisation préalable est privilégié. Conformément à l'article 92 de la loi Allure, nous ne fixons pas de distinction entre les différentes catégories de logements loués afin de toucher l'ensemble du parc locatif privé, mais nous proposons plutôt la mise en place d'un périmètre pour l'application de ce régime. Ce périmètre a été défini en fonction de la localisation des visites de salubrité déjà effectuées, à savoir la rue du Général Leclerc, la place Dupont-Perrault, la rue du Dauphin, rue Pasteur, rue du Minage, rue du Commerce, rue Aristide Briand, allée du Trésor, rue des Poteries, rue des Fontaines, du numéro 2 au 24 pour le côté pair et du numéro 1 au 27 pour le côté impair. Et enfin, l'avenue Victor Hugo, du numéro 2 au numéro 30, donc le côté impair. Ce périmètre représente environ 250 logements locatifs privés. Les demandes d'autorisation préalable à la mise en location, dont la composition est précisée par le décret numéro 2016-1790 du 19 décembre 2016, seront déposées en mairie de Nangy au service urbanisme. Deux arrêtés ministériels parus le 27 mars dernier rendent disponibles les formulaires CERFA. La date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourra être inférieure à 6 mois à compter de la publication de la délibération. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur ce dossier.
Merci, monsieur. Merci. Y a-t-il des questions, des commentaires de ce dossier ?
Oui, monsieur le maire. Donc, cette mesure qui devrait permettre d'ouvrir à la location des logements décents est pour moi une bonne mesure, puisqu'elle devrait permettre aux locataires postulants d'accéder à un logement correct. Toutefois, nous souhaitons avoir des précisions complémentaires concernant les autorisations accordées. Pourquoi limiter cette mesure, qui semble évidemment nécessaire, à un secteur déterminé, ce qui peut paraître discriminatoire? Sur quels critères objectifs l'autorisation sera-t-elle accordée? Quels sont les agents habilités, communes ou extérieures, qui seront chargés de vérifier la bonne conformité du logement à la location? Ce certificat d'autorisation de location sera-t-il payant? Pour permettre l'accession au logement au plus grand nombre, une subvention pourrait-elle être accordée aux propriétaires pour la remise en conformité de logement, avec l'obligation qui suivrait d'offrir une location durant un délai minimum pour un tarif contrôlé? Secondairement, de nombreux propriétaires qui ouvrent leur logement à la location se retrouvent quelque part un peu spoliés par des loyers impayés et irrécupérables, et par des logements totalement dégradés au départ des occupants. Permettez-moi de m'adresser pour cette fois aux parlementaires que vous êtes pour proposer une mesure de compensation qui permettrait aux propriétaires dont le logement a été dégradé de pouvoir le remettre en état, un fonds de garantie à trouver, pour qu'ils puissent ensuite le remettre en location avec le permis de louer devenu indispensable. De nombreux propriétaires refusent leurs biens à la location, et chacun en connaît, par peur de le voir dégradé. Une grande ressource de location est à exploiter en ce domaine. Et je vous remercie de répondre aux quelques questions que je pourrais éventuellement rappeler. Puisque...
D'autres questions, réactions? Alors, je vais essayer de répondre à vos questions sans en oublier. Si c'est le cas, vous me le rappelez. La question des périmètres. Bon, clairement, nous sommes confrontés à ce qu'on va appeler ce que nous appelons du logement indigne dans certains secteurs de la ville qui correspond au secteur le plus ancien. Voilà, c'est d'expérience que je parle. Donc nous, notre attention est attirée presque exclusivement sur des logements qui se situent dans ce secteur et qui nécessitent d'ailleurs beaucoup de travail de la part du service urbanisme, souvent accompagné de la police municipale lorsqu'il s'agit de faire un constat. Sur les problématiques les plus graves, nous demandons même l'expertise de l'Agence régionale de santé, qui intervient toujours au bout d'un certain délai et qui nous fait très souvent la remarque qu'on n'a pas à faire un logement insalubre, mais un logement qui ne correspond pas au règlement sanitaire départemental. Et donc, il revient au maire de faire injonction au propriétaire de se mettre en situation régulière au regard de ce règlement départemental. Et je dois avouer que le maire est bien démuni pour obtenir sa satisfaction. Il ne s'agit pas souvent, d'ailleurs, de propriétaires parfaitement honnêtes et scrupuleux qui pourraient avoir des problèmes budgétaires pour remettre en état un logement. Mais vous le savez comme moi, comme certains propriétaires peu scrupuleux, il en existe à Nangis, qui, malgré des dispositions qui ont été quelquefois même jusqu'à la contrainte de reloger leur locataire, mais clairement... Parce qu'il faut reloger un locataire, c'est rarement le propriétaire qui le fait. Le locataire vient nous voir, essaie de trouver une solution dans le logement social. Ce que la plupart du temps nous faisons, et nous, quelque part, nous avons un peu le sentiment d'alimenter une chaîne un peu désagréable, où des propriétaires font venir chez eux donc des personnes qui pourraient pas facilement trouver à se loger à Nangis. Et je dirais par humanité, nous essayons de travailler avec les bailleurs à une solution qui passe souvent par un bail glissant, l'apport d'une association. Donc on a un peu le sentiment que par rapport à ce qu'on appelle le logement indigne, nous sommes en fait assez démunis. Donc nous pensons que la mise en place de ce permis de louer dans sa disposition la plus contraignante, c'est-à-dire la disposition d'autorisation, peut être une solution. Il faudra, cela dit, qu'on s'en persuade. Mais vous avez vu qu'elle est contraignante pour le propriétaire, mais elle est très contraignante aussi pour nos services. Un délai d'un mois, on ne peut pas rendre toute la ville est éligible à ce système-là. Nous n'en avons pas les moyens humains, puisque les moyens humains vont revenir aujourd'hui donc aux agents du service urbanisme qui sont assermentés et qui sont donc là pour vérifier que le logement qui est proposé à la location correspond bien au règlement sanitaire départemental. C'est ça, excusez-moi, c'est ça la Bible. Donc c'est un document que les propriétaires peuvent se procurer et donc vérifier. Voilà, ça n'en fait pas un logement de luxe, mais très très honnêtement, l'Agence régionale de santé a visité récemment un logement rue du Général Leclerc où une des pièces est encore en terre battue. Je ne vous parle pas des installations électriques et de chauffage. Souvent, on a affaire à des logements qui ne sont pas isolés. Et le chauffage, bah, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les grille-pains, les convecteurs bas de gamme, qui coûtent une fortune aux locataires en consommation électrique et qui ne chauffent pas grand-chose. Donc, voilà l'objet. Alors, c'est pas... Non, il ne s'agit pas de discrimination par rapport à un secteur. C'est le secteur le plus ancien. Voilà, donc c'est vrai que souvent, la remise en état est un vrai problème. Alors, la disposition qu'on vous proposera, d'ailleurs, à la prochaine séance du Conseil municipal, est plutôt liée au plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que nous pensons que peut-être un des moyens de permettre... d'attirer des investisseurs qui pourraient remettre en état des logements qui le nécessitent et qui nécessitent une avance de fonds, serait effectivement d'alléger les contraintes en termes de demande de place de stationnement. Voilà. De ce point de vue-là, des discussions qu'on a pu avoir avec certains investisseurs peuvent effectivement... Les satisfaire et revoir donc des logements d'ailleurs qui aujourd'hui sont inoccupés, hein, ils sont complètement vides, ils sont même pas mis à la location dans de mauvaises conditions, ils ne sont pas du tout mis en location, on s'en est aperçu au moment du recensement, donc d'une part c'est un gâchis, lorsqu'on a beaucoup de familles qui recherchent les moyens de se loger, et d'autre part, un logement qui est inoccupé, c'est souvent un immeuble qui se dégrade. Et souvent des façades qui ne sont pas entretenues, donc l'idée est quand même de faire coup double. Donc voilà, donc je pense que la mise en place du permis de louer va concerner en fait très peu de propriétaires indignes, mais ça peut peut-être nous aider à régler ce problème-là sans créer, je dirais, de complications aux autres. Alors par rapport à vos propositions d'aide aux locataires, oui, ça s'adresse plutôt aux parlementaires. Bon, dans les prochains mois qui me restent à exercer au Sénat, je verrai ce que je peux faire. J'ai pas vu beaucoup de choses à l'ordre du jour de cet été qui le concernera, mais on pourra toujours s'en faire le relais. Après, ce qui est de notre ressort, c'est effectivement peut-être de pouvoir conduire, comme on l'a fait par le passé, des opérations d'aide à l'amélioration de l'habitat, qui consiste effectivement à essayer d'accorder quelques subventions donc aux propriétaires. Après, il y a d'autres dispositifs qui peuvent permettre à des propriétaires de mettre en location, notamment s'ils s'engagent pour une période de 10 ans à le louer à des familles en grande difficulté. Hein, donc souvent, ils bénéficient d'aide de l'État.
C'est terminé,
ça. Voilà, j'en parlerai aux parlementaires pour qu'on essaie de remettre en place ce type d'aide qui avait quand même cet avantage-là, même si c'était... On en a vu un certain nombre. À un moment donné, d'ailleurs, la plupart de ces logements destinés donc à des personnes, par exemple, qui ne bénéficient que du RSA, et le propriétaire donc perçoit directement l'APL et pas par la matière du locataire, et le reste à charge pour le locataire est en général calculé de façon à ce qu'il soit effectivement réalisable. Fait que plus de la moitié du parc était dans le secteur privé. Et au bout de 10 ans, le propriétaire récupère son bien et peut le mettre en location au prix du marché. Bon, la convenance, c'est qu'après, lorsqu'on a trop de logements qui retournent dans le secteur marchand, on se retrouve un peu en difficulté avec ces familles-là. Madame Giraud, vous voulez compléter ?
Oui, je voulais répondre à la question de Monsieur Saussier concernant les impayés dans le privé. Nous sommes en relation avec la sous-préfecture concernant les expulsions. Il y a rarement des expulsions dans le secteur privé. Et je vous rappelle que pour faire un dossier logement dans le public, il faut absolument être à jour de ses quittances de loyer, puisqu'il faut un papier du propriétaire comme quoi vous avez bien payé vos loyers. Donc il n'y a pas énormément d'impayés dans le secteur privé. Il y a des logements, comme dit Monsieur le maire, qui sont... Moi, je l'ai vu par moi-même parce que j'ai accompagné l'agent censeur lors du recensement. J'ai fait la rue du Général Leclerc, pour ne citer que celle-là. C'est vrai que c'est là l'urgence, je pense que c'est là l'urgence. Hein. La place du Pompéreau et puis autour de la Halle, la rue du Commerce, la rue de la... pas de la Poterie, mais le... du Dauphin, pardon. Alors là, c'est une catastrophe. Moi, j'étais épouvantée de voir les logements dans la telle dégradation. C'est pas des travaux qui datent d'aujourd'hui. Je veux dire, si le propriétaire, il avait voulu, au fur et à mesure des années, faire un petit peu de travaux, et je pense qu'il aurait pu.
Voilà. Peut-être un petit bémol. C'est vrai que nous avons peu d'expulsions. Mais parce que nous suivons de très très près les dossiers d'impayés. Hein, parce que par contre, les menaces d'expulsion sont nombreuses.
Plus dans le public,
plus dans le secteur aidé. C'est pas, oui, c'est toujours du secteur privé, hein, mais dans le secteur social. Oui. Encore que, hein, on est par rapport au nombre de logements, ouais. ça reste dans une proportion, à mon avis, qui est quand même acceptable par le bailleur. Ouais. Et c'est plus exceptionnel, effectivement, dans le secteur privé et sur des propriétaires de quelques logements. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. On est bien d'accord.
Il y a des expulsions.
Et la démarche du CCAS est la même. Que ce soit donc par rapport à un locataire qui est dans le secteur social ou dans le secteur privé, lorsque nous sommes informés par la sous-préfecture d'une démarche qui est engagée à l'encontre de ce locataire, nous essayons d'entrer en contact avec lui pour essayer de voir comment il peut se sortir de cette situation. On vérifie qu'il a bien fait le tour de ses droits.
On fait les démarches, mais depuis quelque temps, il y a une loi qui nous oblige à demander au locataire s'il veut qu'on s'occupe de son dossier. Quand il a des impayés, on fait des réunions régulières avec les bailleurs, ou quand on a dans le privé aussi. Et on a une loi qui nous oblige à demander au locataire s'il veut qu'on s'occupe de son dossier. Bien souvent, les gens qui ont des problèmes d'impayés nous disent ben non, on ne préfère pas. Et il arrive ce qui doit arriver, malheureusement, parce qu'on vient nous voir la veille pour le lendemain, l'expulsion a lieu, et on ne peut absolument plus rien faire. Alors qu'au départ, on pourrait essayer de mettre des choses en pratique pour essayer de récupérer l'APL, pour essayer de reprendre, faire des dossiers FSL, enfin tout un déclenchement de dossiers qui est possible de faire pour essayer de retrouver... éviter l'expulsion qui, malheureusement, une expulsion a lieu, et une expulsion, ça sert à rien parce que ça ne fait pas avancer du tout le dossier des personnes qui sont en impayé de loyer.
Voilà. Mais nous essayons de faire en sorte que ce soit effectivement l'exception. Alors, bon, c'est normal, hein, de toute façon, qu'il n'y ait pas une contrainte d'aide par le CCAS. On a affaire à des citoyens responsables, en principe. Et donc, s'ils acceptent notre aide, ça peut aider, effectivement. Quelquefois, la plupart du temps, ça permet effectivement de sortir de la situation. Parce que, vous savez, il y a un système extrêmement pervers, hein, qui fait que lorsqu'on commence à avoir un retard de loyer, très très vite, l'aide personnalisée au logement est supprimée. Et très très vite, vous vous retrouvez avec d'une petite dette, quelquefois, qui est de 2 mois de loyer et qui peut correspondre à un accident de parcours. Vous allez très très vite plonger. Et pour rétablir les aides, il faut un accompagnement quand même très 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 précis. Monsieur Saussier, est-ce que j'ai oublié des choses ?
Non, vous avez répondu pratiquement totalement. Simplement, donc j'ai compris que ce sont les agents de la commune, du service urbanisme, qui allaient effectivement faire les visites pour délivrer le certificat de l'autorisation de louer. Ma question complémentaire, est-ce que ces agents vont recevoir une formation pour ce faire, puisque c'est une tâche, je dirais, nouvelle, hein, et puis, je réitère ma question, est-ce que ce certificat sera payant
Non. Parce que oui, je n'avais pas répondu à cela. Non, ce n'est pas payant. Nos agents ont déjà des compétences puisqu'ils interviennent déjà sur les problématiques de salubrité. Ce sont les premiers à intervenir lorsqu'on est saisi par un locataire, comme ça nous arrive assez fréquemment. Donc je précise que le... Ils sont assermentés, oui. Ils sont assermentés. Donc on gardera effectivement s'il y a besoin de formations complémentaires. Si c'est le cas, bien entendu, c'est notre politique. Ils partiront en formation. Le périmètre a été défini avec leur concours. C'est-à-dire qu'on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils estimaient être en mesure de faire, puisque notre volonté n'était pas de les mettre en difficulté. Et de regarder ce qu'ils font déjà, et ils le font déjà principalement là. Donc on peut considérer que ce qu'ils font déjà va se substituer par cette procédure avec sans doute un petit peu plus d'efficacité, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement des fois on fait des visites régulières dans les mêmes appartements, hein, où il y a un petit peu de travaux qui a été fait, ça suffit, puis après ça continue de se redégrader, etc. Donc on va voir. Non, c'est bien entendu, c'est pas une démarche payante. Hein. Non, c'est. Et puis normalement les propriétaires, s'ils regardent effectivement le règlement sanitaire départemental, mais on peut leur transmettre, on verra bien entendu comment on peut communiquer au préalable, de façon à ce qu'ils aient plutôt des appartements aptes à la location. Voilà, dans ces conditions-là, ça peut aller très vite. Et pour d'autres, ça va nous permettre effectivement de sortir de la location vraiment des choses dans lesquelles on a honte de voir comment vivent les gens, et parfois des très jeunes enfants. Je peux mettre la délibération aux voix. Qui s'y oppose, qui s'abstient, a été adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, il s'agit de l'adhésion à un groupement de commandes relatif à la réalisation d'un service de levée topographique pour les communes adhérentes du SDESM. Alors, vous savez, depuis quelques séances, on a toujours une délibération SDESM, donc ça continue. Et Claude Delard va nous présenter celle-ci. Il nous présentera aussi la seconde qu'elle a. Quel corollaire, puisque maintenant que nous sommes adhérents du SDESM, à chaque fois qu'il y a une demande d'adhésion d'une nouvelle commune, on doit donner un avis. Voilà.
Merci, monsieur le maire. Le système d'information géographique, SIG, permet de recueillir, stocker, traiter et gérer toutes les données géographiques et spatiales. Au 1er janvier 2019, les communes intégrées aux unités urbaines définies par l'INSEE, qui correspond à des unités de plus de 2000 habitants, non distancées de plus de 200 mètres, devront disposer d'une cartographie précise et géoréférencée des réseaux qu'elles auront déclarés. Cette obligation résulte d'une réforme de la prévention des endommagements des réseaux prévue par la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, loi de Grenelle numéro 2. La commune de Nangy a récemment adhéré au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, SDES, qui propose ses services dans le cadre d'un groupement de commandes avec l'ensemble des communes adhérentes. La ville doit se positionner rapidement pour être intégrée à ce groupement, mais elle aura la possibilité de prévoir les dépenses relatives à la mise en place du dispositif sur les exercices budgétaires 2017-2018. Un projet de convention entre la commune de Nangy et le SDESP a été établi pour confirmer notre participation à ce groupement de commandes. Elle concerne le relevé des réseaux secs, dont la propriété et la gestion sont du ressort de la commune. Il s'agit des réseaux d'éclairage public, de signalisation tricolore et de vidéoprotection souterrain ou aérien, ainsi que des réseaux routiers. Des réseaux souterrains sur le territoire communal sont estimés à 21 370 mètres linéaires, toute nature de réseaux confondus. Des réseaux aériens sur le territoire communal sont estimés à 6 000 mètres linéaires, toute nature de réseaux confondus. Des réseaux vières ouverts à la circulation sur le territoire communal et pourvus de réseaux aériens ou souterrains sont estimés à 37 000 mètres linéaires. Une fois sa mise en place, le SIG pourra évoluer en fonction des besoins de la commune, que ce soit dans le domaine technique, renseignement des réseaux secs et humides, en matière d'urbanisme, plan topographique, zonage flux, servitude, cadastre et autres, cartes scolaires, cartes de bureau de vote. Le SIG donne de nombreuses informations cartographiques, mais en aucun cas ne peut remplacer le logiciel d'instruction des autorisations du droit des sols, au même titre qu'il ne peut remplacer le logiciel de gestion des électeurs. Il est toutefois nécessaire que l'ensemble des services de la commune s'interrogent sur les informations qu'ils pourraient mettre à la disposition via le CIG. Dans l'immédiat, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la participation de la commune de Nangy au groupement de communes proposé par le SDESP pour l'acquisition d'un SIG et d'autoriser M. le maire à signer la convention établie à ce sujet. Et la deuxième, la numéro 90, c'est suite à la délibération numéro 2017-27 du comité syndical du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, SDESP, en date du 28 mars 2017, par laquelle l'adhésion de la commune de Saint-Fargeau-Pontchéry a été entérinée, il est demandé aux communes adhérentes, au syndicat, de se prononcer sur cette adhésion. Selon l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, la commune dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du SDESP pour se prononcer sur cette adhésion au sein du syndicat. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur ce point.
Merci, Monsieur Godard. Donc, concernant la délibération 89, c'est une obligation légale. Donc, nous avons le choix ou bien de nous débrouiller par nos propres moyens ou de bénéficier d'un groupement de commandes. On vous propose de bénéficier de ce groupement de commandes. Ça peut quand même permettre de réduire un peu la facture, qui sera quand même une facture importante, hein, il faut le savoir. Il y a tout le travail de relevé, de saisie. Après, c'est un bel outil. C'est vrai qu'on pourrait un jour rêver d'un seul outil, plutôt que d'avoir encore 3 outils parallèles, et notamment le cadastre et le droit des sols d'un côté, et puis les réseaux de l'autre. On pourrait avoir quelque chose. Mais bon, ce sera pour demain. Des questions, des commentaires ? Monsieur Gabarou ?
Bonsoir, je me posais une question, c'est savoir, mettons, pour les pâtures du Gué, est-ce que c'est intégré dedans ? Est-ce que, c'est-à-dire que les relevés, on les fournit au fur et à mesure, est-ce que c'est fait tout de suite ou pas ? Et c'est mis à jour tous les combien ?
Ben, c'est mis à jour à chaque fois qu'on a de nouvelles opérations, de nouveaux travaux. Voilà, ça c'est le SDESM ensuite va se mettre, sera compétent pour la mise à jour de ces tout ce qui pour la partie qui lui revient, notamment donc le réseau des éclairages publics ou le réseau de distribution des d'électricité. Et puis après nous on peut se saisir puisque sur ce type d'outils, l'outil que développe le SDESM, je crois, a 48 couches. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur 48. Voilà, on peut avoir la carte scolaire, on peut imaginer beaucoup de choses. Après, c'est à nous, bien entendu, sur ces questions-là, d'alimenter. Donc, les pâtures du Gué ou la Grande Plaine seront ajoutées au fur et à mesure et à partir des données que vont nous fournir nos délégataires, parce qu'on va pouvoir aussi avoir l'eau de ce point de vue-là. Bon, on peut agglomérer pas mal de choses, sauf le droit des sols et donc les électeurs.
Est-ce que la fibre optique est comprise dedans ou c'est un réseau sec ?
La fibre optique, on peut, c'est une couche. On peut l'ajouter, bien entendu. Bon, je pense que l'actuel, le syndicat devrait être en mesure de nous fournir les données quand même. Enfin, le syndicat qui tire aujourd'hui la fibre optique, le syndicat numérique.
Oui.
Monsieur Saussier.
Non, si on a 48 couches, je veux dire, c'est un outil quand même assez performant. Donc, et ne peut-on pas intégrer le plus dans ces couches ?
On n'a pas le droit.
Ah bon ?
Ouais, j'ai eu la même réaction que vous. Eh ben non, on n'a pas le droit. Non, ça reste donc un document à part. Bon, ben oui, j'en parlerai aux parlementaires. Mais... on a encore, vous savez, il y a encore des réticences à avoir. Ça serait trop, trop facile d'avoir effectivement, parce que du coup, lorsque vous avez ces 48 couches, si vous avez les parcelles, vous pouvez donc interroger tout ce qui passe sur la parcelle et vous pourriez avoir effectivement quel est le périmètre scolaire, quel peut être, alors même si le périmètre scolaire il a tendance malheureusement en fonction des besoins, il est un peu volatile hein, pour éviter de surcharger des écoles et d'avoir des écoles qui se vident. Mais on pourrait imaginer plein de choses, mais on peut pas. Par contre, le plan local d'urbanisme, non, malheureusement. D'autres questions ? Je mets aux voix. Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Elle a été adoptée à l'unanimité. Bon, je suppose que la suivante ne devrait pas poser de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est défavorable à l'adhésion de la commune de Saint-Fargeau-Pontierry-Audesme ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Donc l'avant-dernière, la 91, concerne donc des créations de postes. Dans le cadre des avancements de grade au titre de l'année 2017, il s'avère nécessaire de créer les postes suivants. Un poste d'auxiliaire de puériculture principale de première classe, à temps complet. Un poste de puéricultrice hors classe, au titre du décret numéro 2014-923 du 18 août 2014. 6 postes d'agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles à temps complet. Un poste d'agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles à temps non complet à raison de 32,93 35e. Je marquerai quand même la précision. Oui. Pas qu'il y ait travaillé des gens comme ça pour rien. Un poste d'agent social principal de première classe à temps complet. 4 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. 4 postes d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Et 2 postes d'agent de maîtrise principal à temps complet. Les postes qui seront vacants après la nomination des agents seront supprimés. On ne peut pas les supprimer là maintenant, puisqu'ils sont encore dessus. D'accord. Un travail conséquent d'actualisation est en cours afin de présenter lors d'un prochain conseil municipal un tableau des effectifs qui tiendra compte des suppressions de postes de ces dernières années liées aux nominations des agents dans leur nouveau grade. Par la suite, le comité technique devra émettre un avis et le conseil municipal pourra alors délibérer sur ces suppressions de postes. Voilà, donc. Et je pense que je reprends devant vous. Voilà, mais. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons une nouvelle directrice des ressources humaines. Ça, c'est une petite plaisanterie, bien entendu. Non, on a essayé de prendre en compte cette demande souvent réitérée. Donc voilà, on va le faire progressivement. Voilà, en toute cause, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ces créations de postes qui sont une bonne chose puisque ça permet effectivement donc à toute une série d'agents de la collectivité de progresser dans leur carrière et ça c'est quelque chose d'important. Même si ça aura des conséquences budgétaires évidentes. Mais sur laquelle on a déjà bien entendu, on a un peu anticipé. Des questions, des observations ? Monsieur Saussier.
Oui, monsieur le maire, comme je dirais à chaque délibération de ce type, j'interviens, donc vous ne serez pas surpris. Ce soir, comme à chaque réunion du conseil municipal, vous nous proposez d'approuver une délibération portant sur la création de nouveaux postes au sein des services municipaux. Cette fois pour la création de 20 postes, non pas un, non pas deux, mais 20 postes. Concernant des avancées de grade au titre de l'année 2017. Alors, contrairement aux propos que j'ai pu entendre parfois, je suis un fervent défenseur de la progression professionnelle des agents lorsque ceux-ci ont, par leur expérience et leur qualité professionnelle, et par leurs compétences acquises, la possibilité d'accéder au grade supérieur. Je défends aussi le fait que cette nouvelle qualification doit s'accompagner par la modification de la fiche de poste prenant en compte les compétences acquises, qui doivent s'accompagner de nouvelles responsabilités. Ce principe reste le garant du respect de la hiérarchie des différents échelons déterminés par les textes de droit sur la gestion du personnel territorial. Ceci étant dit, Je suis totalement surpris par cette nouvelle proposition de délibération, car au conseil municipal du 23 janvier dernier, vous nous avez proposé de voter le tableau des effectifs du personnel territorial pour l'année 2017. N'était-il pas, à ce moment prévisible, que les 20 agents dont il est question aujourd'hui pouvaient prétendre à une avancée de grade ? N'était-il pas possible, alors, de rectifier le tableau en conséquence ? Il est dit dans la notice explicative que les postes vacants seront supprimés, ce qui implicitement veut bien dire que les postes nouveaux n'ont pas strictement les mêmes fonctions. Or, cette suppression n'est pas inscrite dans le projet de délibération. Quel est l'intérêt du tableau présenté en janvier ? Vous nous dites depuis 3 ans qu'un travail conséquent d'actualisation est en cours. Personnellement, je ne perçois pas la difficulté de calquer l'organigramme des services que vous conservez de façon confidentielle sur le tableau des effectifs en permettant la gestion prévisionnelle de ces effectifs issus des entretiens d'évaluation ou d'objectifs ou de progrès selon la dénomination que l'on veut bien leur donner, qui doivent être faits chaque année. Encore une fois, nous ne contestons pas l'avancement de grade des agents concernés, mais nous considérons qu'une gestion prévisionnelle sérieuse des effectifs devrait nous éviter ces délibérations répétitives. Monsieur le maire, nous souhaitons vous entendre sur ces questions. Comment prenez-vous en compte dans vos services la gestion prévisionnelle des effectifs ? Quel est l'intérêt du tableau des effectifs présenté et voté en janvier ? Et pourquoi le projet de délibération ne reprend pas la suppression des postes modifiés ?
Non, monsieur Saussier. C'est curieux. Je comprends. J'essaie de faire bien des sens, de comprendre en quoi ça vous préoccupe à ce point-là. Plusieurs choses. Le tableau des effectifs, il est arrêté à une date donnée. C'est une photographie instantanée de l'état de nos effectifs, des postes qui sont créés administrativement et des postes qui sont réellement occupés. Donc c'est public, c'est légal. Voilà. Je dirais que c'est une photographie à l'instant T. Le lendemain, la photographie sera peut-être plus la même. Hein, si on a effectivement un agent. Mais oui, mais vous savez bien que les avancements de grade sont liés pour chaque grade à un rythme d'avancement qui n'est pas un rythme annuel, qui peut être de 8 ans 3 mois, de 8 ans 6 mois, etc. Ensuite, monsieur Saussier, si je peux me permettre. Voilà. Ensuite, comme vous le dites, l'avancement de grade n'est pas forcément automatique. Il correspond effectivement à une décision que je suis amené à prendre à un moment donné, au regard effectivement des entretiens professionnels, de l'avis du directeur du service, de l'avis de la DRH, de l'avis du directeur général des services, qui n'est pas mis en œuvre au moment où je vous présente le tableau des effectifs. Mais non. Et je n'ai pas le droit légalement d'anticiper sur une décision qui sera prise le moment venu. Enfin, en quoi c'est pour vous la démonstration d'un souci de gestion ? Là, j'avoue, ici, il n'y a pas d'emploi fictif, il n'y a personne d'embauché dans ma famille à la ville qui ne ferait pas son boulot. Enfin bon, vous voyez, des choses comme ça. Tous les emplois sont des emplois absolument vérifiables. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, à tel point d'ailleurs, effectivement, qu'on considère qu'à un moment donné... et c'est pas forcément, je suis désolé, c'est pas forcément lié à l'évolution de la fiche de poste. C'est simplement lié à l'évolution de la carrière. Voilà, un poste d'auxiliaire de puériculture principale de première classe va pouvoir peut-être passer à un moment donné à un poste de puéricultrice hors classe, mais il fera le même travail. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est l'acquisition de l'expérience. Son travail, il le fera encore mieux. Voilà, mais il n'y a pas forcément. C'est pas pour autant que je vais lui confier 2 enfants de plus. Vous voyez, c'est C'est curieux. Voilà, vous avez un engagement de notre part. Vous savez ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que le service des ressources humaines travaillera à la suppression des postes quand il en aura le temps, parce que pour moi, ce n'est pas une priorité. Voilà, parce que, je veux dire, c'est vraiment juste un problème d'adéquation dans un tableau. Ce n'est pas parce que vous aurez moins de postes créés administrativement qu'on s'en sentira mieux. Hein. Ça ne changera strictement rien à notre façon de vivre dans la collectivité. Voilà, et puis avoir toujours un matelas de postes, quelquefois, c'est pour éviter d'avoir à en créer. Voilà, dans la puériculture, il nous en manquait un tout petit peu, et puis même sur des postes d'adjoint administratif principal de première classe, c'est vrai que voilà, on en a sur, je dirais, les grades inférieurs et moins dans cela. Donc vous avez mon engagement parce que le service des ressources humaines estime qu'il peut faire cet effort un peu de toilettage, que ce sera fait, que le conseil municipal aura à se prononcer après que le comité technique se soit lui-même prononcé. Voilà, mais je pense que ça va plutôt dans votre sens. Mais je comprends pas cette focalisation sur un problème qui n'en est pas vraiment un. Voilà. Monsieur Saussier.
Bon, si vous le permettez, encore une fois, je ne suis pas opposé, loin de là, à la progression de carrière des agents. Simplement, j'ai travaillé trop longtemps dans la fonction publique pour connaître, je dirais, la procédure d'avancement des agents. Je veux dire que vous me dites que la progression de carrière n'est pas prévisible. Je dirais l'âge dément. Je dirais, on sait bien le temps, je dirais les échelons d'une hiérarchie. On sait bien qu'un agent, au bout de 2 ans...
Excusez-moi de vous interrompre. Je n'ai pas dit que ce n'était pas prévisible. J'ai dit que je ne peux pas l'inscrire au tableau des effectifs tant que la promotion n'est pas effective. C'est aussi simple que ça.
Dans vos tableaux, vous avez, une colonne sur les effectifs possibles et les effectifs réels. Je veux dire, on a bien constaté que sur certains postes, il y a une marge très importante qui permet effectivement la progression d'agents. Oui. Et que sur certains postes, effectivement, là, vous êtes coincé parce que ça ne le permet pas.
Et c'est pour ça que je saisis le conseil municipal au moment où le service des ressources humaines pensait, s'il vous plaît. Allez prendre rendez-vous au service des ressources humaines et voyez comment ils travaillent. Monsieur Saussier. Et regardez bien... Non, c'est pas démago, ce que je vous dis. Regardez bien quelle est leur charge de travail. Et regardez bien ce qui passe en priorité. Et vous verrez que ensuite on travaille, c'est un service qui travaille à flux tendu comme beaucoup, et donc on priorise, et c'est vrai qu'on le fait comme ça, et je ne suis pas sûr que ça pose de réels problèmes, on le fait à un moment donné où c'est faisable, où les décisions sont prises, pour pouvoir les mettre en application. Anticiper de plusieurs mois ne me paraît pas nécessaire. Voilà, c'est tout aussi simple que ça.
Bon, j'admets que c'est du formalisme. Je suis conscient, du travail effectué dans les collectivités territoriales et sur le terrain. Je ne vous contredirai pas sur ce point. Simplement, sur le tableau des effectifs qui nous est présenté en début d'année, je souhaiterais qu'un toilettage soit refait de façon à ce que, effectivement, les promotions, etc., qui sont encore une fois prévisibles, soient intégrées.
Il y aura, monsieur Sautier, un toilettage qui sera fait. Je ne vous garantis pas que ce sera un toilettage complet, parce que vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc c'est un ticket d'intérêt explicative, ça sera porté au compte-rendu du Conseil, donc c'est un engagement que nous formalisons là ce soir en accord avec le service des ressources humaines et la direction générale des services, pour vous donner satisfaction, voilà, parce qu'on a envie de vous faire plaisir quand même un peu.
C'est trop gentil.
Voilà. Pouvons-nous mettre cette délibération aux voix ? Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour les agents. Dernière délibération, Monsieur Palancade, donc, ce petit souci de subvention exceptionnelle pour l'amicale bouddhiste.
Merci, Monsieur le maire. Donc, en complément de la délibération numéro 2017-avril-067, 10 avril 2017, il est proposé d'allouer pour l'année 2017 une subvention exceptionnelle de 2000 euros à l'association amicale bouddhiste de Nanji. Donc, en plus de la précision apportée par M. le maire en début de séance, il s'agit d'un soutien exceptionnel que la municipalité souhaite apporter à l'association dont les locaux ont récemment fait l'objet de deux cambriolages avec vol de matériel. Cette aide permettra notamment à l'association de maintenir l'organisation et sa participation avec la FSCGT, donc la Fédération sociale et gymnique du travailleur, donc aux championnats de France de boules lyonnaises qui auront lieu à Nanji les 23, 24 et 25 juin 2017. Pour toutes ces raisons, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de cette subvention exceptionnelle à l'association amicale bouddhiste de Nanji.
Merci, Monsieur Palancade. Donc, première chose, c'est vrai que nous avions oublié l'importance de ce championnat de France dans les propositions de subvention que nous avons faites. Et deuxième chose, il y a eu deux cambriolages, un sans trop de problèmes et l'autre essentiellement. Donc, c'est toute la réserve de boissons en vue de ce championnat qui a été dérobé. Il fait chaud en ce moment, donc on peut avoir des grands buveurs quelque part. Donc bon, voilà, c'est à la fois réparer un oubli et faire un geste par rapport donc, à une association qui a une belle activité dans la ville. Des questions ? Non ? Je vous mets cette délibération aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? À l'état de voter à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est épuisé, pas trop, j'espère encore. Deux petites choses. La prochaine séance du conseil municipal a lieu donc le dernier lundi de juin, c'est-à-dire le 26, le lundi 26. Mais. Il se peut que nous ayons à convoquer malgré tout le conseil municipal en séance extraordinaire. Si le décret convoquant les conseils municipaux pour l'élection des grands électeurs indique une date commune pour tous les conseils municipaux de France et de Navarre et d'Outre-mer. C'est une possibilité. Je ne connais pas aujourd'hui les intentions du nouveau ministre de l'Intérieur, mais c'est une possibilité. Souvent, quand ça se passe ainsi, c'est un conseil municipal qui est convoqué plutôt le samedi matin. Mais je n'en sais rien, puisque à ce jour, le décret n'est toujours pas paru. Vous avez entendu un peu cette espèce d'hésitation à différer d'une année l'élection sénatoriale pour permettre au nouveau président de la République de tenir son engagement de réduire le nombre de parlementaires, etc., durant son mandat. Ensuite, il a indiqué au président du Sénat que pour l'heure, il n'y songeait pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pour l'heure, il n'y songe pas. Toujours est-il que ce décret qui devait être dû paraître il y a déjà plusieurs semaines ne l'est toujours pas. Donc, dès qu'il sort, on vous en avertira. Ou bien c'est un décret qui demande donc aux conseils municipaux de délibérer pour élire les grands électeurs avant la fin du mois de juin. Et dans ces cas-là, le prochain conseil, la prochaine séance ordinaire du conseil municipal suffira. Ou bien c'est une convocation à une séance extraordinaire. Et là, voilà. Je vous rappelle que le principe des élections, de l'élection des grands électeurs, est une élection par liste, donc au sein du conseil municipal. De mémoire, je crois qu'il nous faut élire 14 grands électeurs, je ne vais pas réviser, mais on est à peu près sur ce nombre-là. Une élection par liste à la proportionnelle. Attention toutefois aux personnes qui seront présentes sur la liste. le vote à l'élection sénatoriale qui aura lieu donc le dernier dimanche de septembre est le seul vote en France qui est obligatoire. Et vous pouvez être sanctionné pénalement si vous ne présentez pas au scrutin sans un motif valable qui ne peut être qu'un motif médical ou la perte d'une personne proche. Donc, dans la constitution des listes, mettez en premier ceux qui sont sûrs de pouvoir se rendre à ce scrutin. Donc, on vous donnera toutes les précisions nécessaires d'ici là pour la constitution. Puisqu'on parle de scrutin, un appel à tous les conseillers municipaux. Vous avez vu que nous connaissons en ce moment peut-être un repli d'implication citoyenne, mais peut-être que les choses vont changer, et nous avons un peu de difficulté à ce qu'il y ait des représentants de candidats qui nous soient proposés comme assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Donc je vous rappelle que les premières personnes appelées à tenir les bureaux de vote sont les conseillers municipaux. Donc je vous invite les uns et les autres à bien faire votre devoir et à essayer de vous rendre disponible donc pour les deux prochains scrutins, donc pour les élections législatives. Bon, il y en a qui ont déjà donné pour les présidentielles, on a encore deux autres. Voilà. Donc merci à toutes et à tous de faire cet effort-là. Vous avez vu qu'on a été amené notamment à réduire, notamment jusqu'à présent nous avions un président et deux vice-présidents. Là nous avons réduit ce présidentiel à un président et un vice-président, ce qui fait quand même la moitié du temps à tenir. Monsieur Gabarou.
Oui, je voulais simplement une question pratique. S'il y a un conseil municipal donc extraordinaire, la convocation se fait combien de temps avant ?
Normalement, c'est les mêmes conditions de convocation. J'ose espérer qu'on n'aura pas un arrêté l'avant-veille de la convocation.
Voilà,
normalement, c'est 5 jours francs de la même façon. Mais normalement, ce qui est clair, ce qui est prévu dans la loi, par contre, la loi électorale, c'est que pour que les élections puissent se tenir le dernier dimanche de septembre, il faut que les grands électeurs soient élus avant la fin du mois de juin, avant le 30 juin. Voilà. Autrement... Alors, bon, des gens qui connaissent mieux la réglementation que moi me disent 3 jours pour une convocation d'une séance extraordinaire. Pas 5, 3 jours francs. Voilà, bon, de toute façon, on vous tiendra au courant dès que ça frémit. Quoi. Voilà. Je vous remercie, je remercie le public d'avoir été attentif et patient, et la séance est levée. Bonne soirée.